Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Plus de 1250 enfants vivent avec le VIH-Sida sur au moins 22 520 personnes vivant avec cette pandémie dans le Sud Kivu. Statistiques révélées hier par le Programme national multisectoriel de lutte contre le Sida. C'était à l'occasion de la célébration le 1er décembre de la Journée mondiale de lutte contre le Sida. Nord Kivu, Caritas assiste 50 femmes et jeunes filles déplacées vulnérables du site de Roussayo. Elles ont reçu chacune 200 $ cette semaine. C'est dans le cadre du projet de réponse aux soins de santé sexuelle et de la reproduction et prévention des violences, projet financé par le Fonds des Nations Unies pour la population. Et puis, au moins 3700 nouveaux ménages des déplacés sont arrivés depuis un mois à Kanyabayonga, au Nord Kivu. Ils fuient les combats entre le M23 et la coalition des groupes armés locaux dans le territoire de Masisi et de Rutshuru. Pour en parler, nous recevons Kasereka Fatiri, bourgmestre de la commune rurale de Kanyabayonga. Madame, Messieurs, bonjour. Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, c'était hier 1er décembre dans la province du Sud Kivu. Cependant, 1253 enfants vivent avec le VIH sur un total d'au moins 22 520 personnes vivant avec cette pandémie. Statistique révélée hier par le secrétaire exécutif du Programme national multisectoriel de lutte contre le Sida, PNMLS Sud Kivu. Freud Muchiza a fait savoir que plus de 2351 personnes ont été atteintes du VIH en 2023. Ces statistiques confèrent à la province du Sud Kivu un taux de prévalence de 1,9%. On l'écoute.
35e journée mondiale de la journée de lutte contre le sida, une occasion pour nous de redynamiser encore tous les partenaires et de remobiliser encore une fois pour qu'ensemble puissions nous engager pour que dans les années à venir, nous soyons en mesure d'apporter encore des solutions par rapport aux défis qui sont les nôtres. Parmi les défis, comme l'avons dit, il y a un problème de mobilisation des ressources et nous avons profité de l'opportunité qui nous a été offerte aujourd'hui pour non seulement demander à l'autorité provinciale de nous accompagner encore davantage, mais aussi de demander aux partenaires techniques et financiers de nous appuyer pour que nous puissions mettre nos communautés au centre de la lutte et avec les appropriations que nous pouvons ensemble espérer des résultats à haut impact. La prise en charge en termes de médicaments et autres intrants est assurée tous les mois de décembre. Nous allons faire des activités de dépistage de masse pour que les gens se fassent dépister et ceux qui seront malheureusement atteints du virus pourront bénéficier de la prise en charge. Et si vous ne bénéficiez de la prise en charge précoce, vous avez la possibilité de ne pas développer la maladie. Nous avons encore des nouvelles infections en VIH. Nous avons beaucoup de personnes qui faut mettre sous arrivé. Nous avons des personnes vivant avec le VIH qui sont encore victimes des pratiques stigmatisantes et discriminatoires, ce qui freine encore la réponse provinciale.
Dans le même registre, la ville de Beni au Nord Kivu compte aujourd'hui plus de 2000 personnes vivant avec le VIH-Sida. Ce chiffre a été communiqué hier, 1er décembre, par le Programme national de lutte contre le Sida PNLS à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le Sida. C'était au cours d'une conférence débat organisée hier même par le PNLS en collaboration avec d'autres organisations intervenant dans le secteur de lutte contre cette pandémie. Le compte-rendu de Grévis Salumou.
Pour Gaston Kisembo, point focal du forum Sida de Beni, les défis à relever pour lutter contre le VIH-Sida sont encore nombreux dans la communauté. Beaucoup me connaissent même que la maladie existe toujours, a-t-il rapporté lors de sa présentation.
Il y a une oubliette de la part de la communauté. Sur 10 personnes, il y a au moins 3-4 personnes. Il y a l'ignorance de la part de la population, les autres aussi la négligence.
Cette dame d'une cinquantaine d'années qui a requis l'anonymat vit avec le VIH-Sida depuis 20 ans. Elle invite d'autres malades à se manifester afin d'éviter la propagation de cette maladie dans la communauté.
Depuis 2003, je vis avec cette maladie. J'étais victime d'une embuscade sur la route Goma et je me suis toujours fait soigner. Tous ceux-là qui se cachent avec cette maladie dans la communauté, qu'ils nous contactent s'ils ont peur pour que nous puissions leur donner des astuces de prévention.
Les mesures de prévention et de lutte contre le VIH-Sida demeurent les mêmes, rappelle le docteur Nikes Maté, médecin coordonnateur du Programme national de lutte contre le VIH-Sida, PNLS, à Beni.
Les mesures n'ont pas changé. Tout le monde doit faire un effort pour la prévention, c'est-à-dire l'abstinence, la bonne fidélité, l'utilisation du préservatif et aussi le dépistage.
Beni, Grévis Salumou, Radio Kapi.
Toujours dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, à Kinshasa, plusieurs activités ont été organisées pour marquer cette journée. Au programme multisectoriel de lutte contre le Sida, une journée de réflexion a été organisée autour du thème national « Ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre le Sida d'ici 2030 » et le thème international « Confier le leadership aux communautés ». Madame Suzanne Kassédé, directrice pays de l'ONU Sida en RDC, parle ici de l'évolution des statistiques de cette pandémie. Elle est au micro de Stanislas Diumi.
Depuis le début de cette pandémie, presque 90 millions de personnes ont été infectées par le VIH dans le monde entier. Plus de 40 millions de personnes sont mortes des maladies liées au sida. Aujourd'hui, presque 30 millions sur 40 millions, c'est-à-dire 76% des personnes vivant avec le VIH en 2022, avaient accès à un traitement antirétroviral. En RDC, 82% des 490 000 personnes vivant avec le VIH qui connaissaient leur statut sérologique étaient sous traitement en 2022. La baisse des décès liés au VIH en RDC est sur la bonne voie, comme nous avons entendu. Ça a réduit 72% entre 2010 et 2022.
Pour Suzanne Kassédé, le traitement reste largement inaccessible pour les enfants en RDC. Je vous le disais en titre, à Goma, la Caritas a remis cette semaine une assistance financière cash à 50 femmes et jeunes filles déplacées vulnérables du site de Roussayo. Ce cash de $200 américains par femme a pour but de leur faciliter l'accès aux services et réduire les risques de violence basés sur le genre. C'est dans le cadre du projet de réponse aux soins de santé sexuelle et de la reproduction et prévention des violences, un projet financé par le Fonds des Nations Unies pour la population. Mais comment les bénéficiaires comptent utiliser cette assistance? Quelques femmes déplacées répondent dans ce reportage de Rosalie Zawadi.
Elles comptent changer de vie, les femmes déplacées qui ont reçu cette assistance. Cette femme qui a fui la guerre dans son territoire de Masisi explique justement la vie qu'elle veut changer.
Je venais ici à Goma les civets pour les familles de la ville. Je cherchais aussi du travail au champ pour que mes enfants aient à manger. Grâce à cette assistance de Caritas, je vais commencer à vendre la farine et les haricots. J'aurai facilement de quoi nourrir mes enfants et même payer les frais scolaires à ceux du secondaire. À ceux qui sont en primaire, je vais payer des habits, des souliers pour qu'ils étudient dans de bonnes conditions.
Cette femme, elle, est de Busanza, dans les territoires de Rutshuru. Elle faisait déjà un petit commerce pour prendre en charge ses enfants orphelins des pères. Elle voit déjà comment elle va agrandir son commerce.
Je faisais le commerce ambulant des arachides pour prendre en charge mes enfants. Ma capacité était d'un bassin d'arachides, mais grâce à ces $200, je peux prendre tout un sac.
Des rêves, ces femmes déplacées en ont plein. Et la Caritas compte les aider à les réaliser à travers le renforcement de leurs compétences commerciales, a dit l'administrateur de la Caritas Goma, l'abbé Toussaint Serutoke. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Autre nouvelle, implanter l'Office national des transports Onatra sur les marchés congolais, c'est le défi que s'attelle à relever la direction générale de cette entreprise dirigée par Martin Lukusa. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire les travaux de rénovation du quai numéro 2 du port de Matadi, quai qui a vu accoster tout récemment le premier navire commercial Lubero transportant 6000 tonnes de marchandises. Le directeur des ports et transports fluviaux de l'Onatra, Vital Mouchoko, revient ici sur les trois convois planifiés dans le programme trimestriel lancé au mois d'octobre et invite par ailleurs la population congolaise à la confiance. Il est au micro de Jean-Marc Matouaki.
Il y a à peine 10 jours que nous avons envoyé un convoi à Kisangani, le convoi Lunungu, composé de 4 barges cargo avec 2000 tonnes de ciment. Il est aujourd'hui en Mbandaka et tout allant bien, il pourra arriver à Kisangani dans les 14 jours qui suivent. À propos de celui qui part, c'est le convoi Lubero qui va monter avec le même tonnage de 2000 tonnes. Et quand nous parlons de Kisangani, il ne faut pas oublier que nous avons de postes agences et des postes non agences. Nous sommes en train de travailler sur un programme trimestriel que nous avons commencé depuis le mois d'octobre. Et avec ce programme, nous avons préparé 3 convois. Il y a un qui est parti. Il y a le deuxième qui part Lubero dans la semaine prochaine. Et le troisième, ça sera le convoi Gungu. Il va partir au mois de décembre aussi. Le peuple qui doute encore, nous pensons qu'il n'a pas besoin de douter parce que les faits sont là. Je viens de vous parler des trois convois en moins de trois mois. Et je viens de vous brosser les différentes agences par lesquelles nous passons. Ça veut dire à chaque agence, il y a toute une population derrière.
À son tour, le directeur du département chemin de fer, Didier Kabongo, a fait savoir que l'ONATRA poursuit normalement les travaux de réhabilitation du chemin de fer reliant Kinshasa à la province du Congo central. L'actualité, c'est aussi la clôture hier à Kinshasa du séminaire de formation sur l'éthique et l'intégrité dans la gestion des marchés publics en faveur des représentants des organes de contrôle et de régulation des marchés et des finances publiques. Durant 4 jours, les notions d'éthique et intégrité ont été clairement définies et expliquées par des éminents experts, formateurs de l'École nationale de l'administration publique, ENA, venus du Québec au Canada. Pour le directeur général de l'Autorité de régulation des marchés publics, cette formation, dont la réussite a connu l'implication personnelle du Premier ministre, a visé à renforcer les dispositions réglementaires régissant les agents publics de l'État, dont les valeurs éthiques et d'intégrité ne doivent pas être placées au bas de l'échelle dans l'exercice de leur mission. Les propos de Benoît Kalikat ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Les modules ponctués par des cas pratiques ont été dispensés par les experts formateurs, à savoir l'éthique et la gestion de l'intégrité au cœur des valeurs africaines, les risques à l'intégrité, les répondants éthiques, l'éthique et la déontologie dans la fonction publique, les conflits d'intérêts. À partir de ce jour, vous êtes l'échantillon sur lequel notre pays peut compter pour promouvoir les notions d'éthique et d'intégrité dans l'exercice de votre carrière professionnelle. L'ARLP reste engagé dans la promotion des valeurs éthiques et d'intégrité conformément à la loi 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public et se donne le devoir de les vulgariser à l'ensemble des autorités contractantes du niveau central et provincial.
Retour au Nord Kivu. Une dizaine de candidats députés nationaux et provinciaux de la circonscription de Beni étaient face aux électeurs hier pour présenter leur programme d'action. C'était au cours d'une tribune d'expression populaire organisée par le club RFI en collaboration avec la coordination urbaine de la société civile de Beniville. Placée sous le thème de la gestion des affaires publiques à la redevabilité envers la population, la tribune d'expression populaire a été pour les candidats l'occasion d'interagir avec la population venue les écouter. Des détails dans ce reportage de Rose Kitenge.
C'est devant un public venu participer à la tribune d'expression populaire que différents candidats à la députation tant provinciale et nationale de la circonscription de Beni ont eu à s'exprimer sur les raisons qui les ont poussés à postuler et à présenter leur projet de société. Pepin Kavota, le président de la société civile de Beni, explique les bien fondés de cette tribune populaire.
Nous devrions, n'est-ce pas, à mettre face à face candidats députés nationaux et provinciaux et avec la population. Nous avons appelé un bon nombre de députés. Ils sont en train de s'exprimer devant la population. Et il est temps maintenant pour la population de poser des questions pour ce que leurs représentants auront à faire au niveau provincial et national.
Kasolene Katuka, l'un des participants, se réjouit d'avoir pris part à cette tribune d'expression populaire. Elle lui permettra, selon lui, de faire un bon choix lors des élections.
Sinon, je vais commencer d'abord à remercier les organisateurs de cette tribune. C'est ça la citoyenneté. Par là, nous allons savoir qui mérite d'aller nous défendre au niveau de Goma et de Kinshasa. Quand on a appelé les représentants de toutes les couches de la population, alors c'est une bonne chose ça.
Rappelons que cette tribune d'expression populaire est la deuxième organisée dans la ville de Beni.
Dans l'actualité aussi, la société civile de Mambasa en Ituri accueille avec satisfaction la décision de la justice française de poursuivre l'ex-chef du groupe armé RCDN, Roger Lumbala, pour crimes contre l'humanité, crimes présumés commis entre 2002 et 2003 en Ituri et dans le Nord Kivu. Début novembre, les juges français ont estimé avoir suffisamment d'éléments recueillis au terme de 3 ans d'instruction pour mettre en accusation Roger Lumbala. Cette structure dit attendre avec impatience le procès pour que les victimes obtiennent réparation. Des détails avec Isaac Remoyope.
Selon les communiqués de presse des collectifs des ONG qui accompagnent les victimes publiées mercredi à Bounia, Roger Lumbal a été accusé de complicité des crimes contre l'humanité par meurtre, torture, viol, pillage et réduction en esclavage sexuel commis à l'est de la RDC entre 2002 et 2003. C'est par l'ordonnance rendue le 6 novembre dernier par les juges français. Le secrétaire exécutif de Justice Plus, l'une de ces organisations, indique que plus d'une centaine de victimes ont été identifiées en Ituri. Xavier Maki ajoute que quelques-unes parmi elles ont été attendus par les juges qui ont établi l'implication de Roger Lumbala dans ces crimes, ce qui constitue selon cette ONG une avancée significative dans la lutte contre l'impunité. Xavier Maki de l'ONG Justice Plus.
Ça constitue vraiment une avancée significative par rapport à la lutte contre l'impunité des crimes contre l'humanité et qui endeuille des milliers de populations dans notre pays.
La cité civile de Mombasa où ces crimes ont été commis dit que les victimes plaident pour le début des audiences pour obtenir la réparation. Marie-Noël Anotane, sa coordonnatrice.
On ne peut qu'être soulagé, attendre que la justice soit faite, les coupables soient jugés et que les victimes soient remises à leurs droits pour obtenir les réparations. C'est vraiment une bonne nouvelle.
Quatre ONG congolaises accompagnent les victimes dans cette affaire en vue de servir des leçons à d'autres leaders des groupes armés actifs en RDC. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Niger. Des membres de la famille du président nigérien renversé, Mohamed Bazoum, disent être sans nouvelles de lui depuis le 18 octobre et ont dénoncé des arrestations et perquisitions abusives visant certains d'entre eux. Depuis qu'il a été renversé le 26 juillet par un coup d'état militaire, Mohamed Bazoum est séquestré dans sa résidence présidentielle avec sa femme et son fils. Le Niger est dirigé depuis le 26 juillet par un régime militaire mené par le général Abdourahmane Tiani. Au lendemain du coup d'état, plusieurs dignitaires de l'ancien régime, notamment des ministres et des députés, avaient été incarcérés dans différentes prisons du pays.
L'invité.
Depuis un mois, au moins 3700 nouveaux ménages des déplacés sont arrivés à Kanyabayonga, dans le territoire de Lubero. Nous sommes au Nord Kivu. Ils fuient la reprise des combats entre les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda et la coalition des groupes armés locaux dans les territoires de Masisi et Rutshuru, ce qui fait au moins 10 000 ménages des déplacés, dont certains vivent depuis près de 2 ans à Kanyabayonga. Quelles sont leurs conditions de vie et leurs besoins urgents? Réponse avec notre invité Kasereka Fatiri Chrysostome, bourgmestre de la commune rurale de Kanyabayonga. Il est avec Martial Papimukeba.
Kasereka Fatiri Chrysostome, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Quel est l'impact sur la vie quotidienne de la population de Kanyabayonga de l'occupation depuis plus d'une année des Rutshuru et Kiwanja par la rébellion du M23?
Depuis qu'on a fermé la route Butembo-Goma, la population de Kanyabayonga souffre beaucoup, surtout que nous avions une seule économie, celle de la vente des ananas. Pour le moment, les mamans qui vendent ces ananas sont beaucoup en difficulté parce qu'ils ne trouvent plus l'argent, surtout qu'il n'y a plus de passage de véhicules. Alors, il leur est difficile de scolariser les enfants, même de se procurer la nourriture. Et en deuxième lieu, depuis que nous avons réussi les déplacer à provenance de Rutshuru, la vie est devenue vraiment très 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 chère à Kanyabayonga. Les déplacés, quand ils arrivent à Kanyabayonga, ils sont réussis dans des familles d'accueil. Alors, les familles d'accueil ont une double charge. Et c'est pourquoi vraiment la vie devient très très difficile de la part des familles d'accueil au niveau de Kanyabayonga.
Aujourd'hui, combien de déplacés vivent dans votre entité, ici à Kanyabayonga?
On avait environ 7710 ménages, donc ce qui concerne la sienne vague. Alors, depuis que les affrontements sont signalés au niveau de Kishishe, il n'y a pas longtemps, la commune de Kanyabayonga vient de recevoir encore 2735 ménages.
Ce qui fait presque 10 000 ménages.
Plus de 10 000 ménages qui sont présents ici à Kanyabayonga.
Et comment vivent ces déplacés?
Je vais vous dire que ces déplacés vivent très difficilement parce que pour l'ancienne vague dont j'ai fait allusion à une affaire de 7710 ménages, n'avaient reçu qu'une seule assistance, c'était de la part de NRC.
En quelle période?
Il y a environ une année qu'ils ont été assistés par NRC. Et c'est maintenant après que nous avons reçu une autre ONG dénommée World Vision, qui est venu avec des cash. Effectivement, c'est une ONG qui a beaucoup aidé quand même ces déplacés parce qu'elle a assisté ces déplacés à une affaire à trois reprises à leur donnant un peu de cash. Alors, sans quand même soulager, tant soit peu, leur souffrance. Pour le moment, nous avons l'ONG concernée qui est en train de les identifier, mais qui n'a pas encore donné quelque chose.
Et quels sont les besoins urgents de se déplacer?
Les besoins urgents sont nombreux, parce que vous savez que quand on se déplace des milliers pour un autre millier, on a toujours beaucoup de problèmes. Ces derniers temps, je sais que les déplacés ont besoin de vivre et de non-vivre. Si vraiment ces déplacés trouvaient les vivres et les non-vivres, ça aidera tant soit peu ces gens, ces derniers. De même, vous savez que nous sommes avec des mamans qui ont besoin de soins médicaux. Alors, si on leur venait en assistance en matière de soins médicaux, disons les médicaments, ça aiderait aussi beaucoup. Mais sans oublier aussi les abris, parce que il y a d'autres ménages qui sont en train de manquer comment trouver une chambre où on peut passer une nuit. Alors, je vais lancer le message à toutes les ONG que, en tout cas, nous avons beaucoup de déplacés au niveau de Kanyabayonga. Et il nous faut beaucoup d'assistance.
Parlons sécurité. Kanyabayonga dépend à 100% de l'agriculture, mais plusieurs sources parlent d'une présence de certains groupes armés locaux autour de Kanyabayonga et qui exigeraient à la population le paiement d'un montant de 1000 francs congolais ou plus avant d'accéder à leur champ. Qu'en dites-vous?
Oui, en tout cas, je serai un peu clair quant à cette situation, parce que à l'est de notre commune, nous avons un groupe de Wazalendo dénommé FPP. Et c'est vrai, j'ai toujours eu cette lamentation de la part des mamans qui y cultivent. Elles sont soumises au paiement de 1000 francs par mois qu'on appelle des jetons. C'est peu difficile d'anéantir cette situation, mais je sais bien que les mamans sont en train de payer, c'est vrai, le montant là de 1000 francs dont on fait allusion.
Kasserika Fatiri, merci.
Merci à vous, messieurs les journalistes.
Le bourgmestre de la commune rurale de Kanyabayonga, au Nord Kivu, répondait aux questions de Martial Papimukeba. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.